Bonjour Wendy Stevenson, nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de votre histoire en lien avec la répression et le profilage politique. Tout commence à l'automne 1979, vous travaillez alors pour Pratt & Whitney et vous êtes congédiée en même temps que deux autres collègues femmes. Pouvez-vous nous expliquer en détail ce qui s'est passé cette année-là ?
On était trois pour appliquer à Pratt & Whitney, trois femmes. Deux étaient des machinistes qui avaient sorti des cours de machinistes. Et moi, j'étais plus quelqu'un non qualifié. On était engagé à Pratt & Whitney. On a passé 2 mois et 29 jours travaillant là. On avait des bonnes relations avec nos compagnons de travail, compagnes de travail. On avait des bonnes recommandations de nos contremaîtres que notre travail était excellent. Et comme j'ai dit, 2 mois et 29 jours après qu'on était engagés, on était tous appelés. On était sur trois chiffres différents, trois équipes différentes dans des parties différentes de l'usine. Puis on était appelé dans le bureau de nos contremaîtres pour être informé qu'il y avait une mise à pied, puis qu'on était mis à pied. Comme j'ai dit, c'était une journée avant de rentrer officiellement dans le syndicat. Alors, on a appris le lendemain que les trois faisaient partie de ce mise à pied. Alors, on a appelé le syndicat pour savoir combien de gens avaient été mis à pied. Puis, drôlement, il y avait juste trois personnes dans toute l'usine, même s'il y avait du monde avec moins que 2 mois et 30 jours, 29 jours. Alors, là, on était bien curieux comment ça se faisait que tout ça s'est arrivé. Alors, on a discuté qu'est-ce qu'on voulait faire, puis on a décidé qu'on voulait voir le syndicat en premier. Le syndicat, même s'ils nous ont appuyés, ils trouvaient que c'était... pas bien du tout. Qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont dit que formellement, ils ne pouvaient pas nous défendre parce qu'on n'était pas formellement dans le syndicat encore. Mais ce qu'ils ont fait, ils étaient prêts à prendre la responsabilité de soumettre une plainte à la Commission des droits de la personne de notre part, qu'il y avait quelque chose. Puis nous, à ce point-là, on pouvait juste deviner, mais on était des militantes politiques, on était des féministes, on avait participé dans le mouvement pour l'indépendance du Québec, contre la guerre au Vietnam, toute une série d'activités. Et est-ce que c'était syndical? Est-ce que c'était politique? Est-ce que c'était discrimination contre les femmes? Parce qu'il n'y en avait pas beaucoup de femmes dans le non-traditionnel à ce point-là. On ne pouvait pas deviner. Personne ne nous a dit, évidemment. Alors, on a fait la plainte à la Commission des droits de la personne qui a procédé avec une enquête. Mais il fallait qu'on gagne notre pain quand même, alors on a cherché d'autres emplois. Et deux de nous, Suzanne Chabot et moi-même, on a été engagés à Canadair dans le département de l'électricité. Et la troisième femme, Katie Leroux-Jetel, avait été engagée dans Canadian Marconi. Deux compagnies, 2 mois plus tard, on était encore les trois appelés dans les bureaux des contremaîtres pour être informés qu'il y avait un surplus de personnel puis qu'on était mis à pied. Alors, encore une fois, c'était clair qu'il n'y avait personne d'autre qui était mis à pied. Ils n'ont même pas essayé de le cacher en faisant quelque chose un peu plus large. Alors, à ce point-là, la Commission des droits de la personne a commencé leur enquête. Et ils ont découvert à travers leur enquête que, premièrement, on avait des bonnes recommandations de nos contremaîtres. C'était vraiment pas notre travail. Qu'il n'y avait pas d'autres mises à pied. Et troisièmement, à peu près un mois après notre embauche, un agent de la GRC est venu pour informer Pratt & Whitney que nous, on était des militantes politiques. Alors, il a signé le registre. Alors, ils ont pu retracer tous les gens qui ont signé le registre à Pratt & Whitney, plus le responsable de la sécurité est un ancien de la GRC, un compagnon de travail de celui qui est venu. Alors, il savait exactement à quoi il voulait et il y avait plusieurs rencontres de la haute direction de Pratt & Whitney par rapport à quoi faire avec nous avant qu'ils ont atterri avec cette idée de mise à pied à cause d'un surplus de personnel. Alors, on a mené une campagne assez large et publique et ce que je veux dire, c'est que je pense que notre expérience personnelle n'était pas la seule expérience comme ça. Mais ce qui a fait de notre cause quelque chose de beaucoup plus pointu, dans un sens, c'est qu'on a décidé de se défendre publiquement. Et on a décidé de confronter et Pratt & Whitney et le GRC sur pourquoi ils nous harcelaient pour nos idées politiques.
Est-ce que, à l'heure du deuxième renvoi, simultané, alors que vous êtes dans deux entreprises différentes, est-ce que, alors vous êtes vraiment rendu compte d'être persécuté et même profilé politiquement? Est-ce que c'est à ce moment-là où vous êtes rendu compte que vous étiez la cible d'une, d'une campagne de répression politique?
Mais ce n'était pas la première fois qu'il y avait eu une intervention, quand, pas juste nous, mais d'autres, pendant les Olympiques. Il y avait des gens qui avaient été engagés à COJO, qui était le comité organisateur, qui avaient été congédiés pendant le temps des Olympiques parce qu'ils étaient des risques à la sécurité. Alors, ce n'était pas la première fois, mais il faut dire que c'était la première fois pour moi. Et moi, j'avais commencé à militer à partir de 65, on parle de 79. Mm. Alors, ça faisait 14 ans que je militais sur toutes sortes de causes. Et je ne veux pas être mal interprétée avec ce que je vais dire, mais tout d'un coup, j'ai réalisé qu'ils nous prenaient plus au sérieux, peut-être que nous, on se prenait. Mm. Qu'ils nous suivaient, qu'ils nous espionnaient, qu'ils faisaient l'effort de nous faire congédier deux fois de suite de nos emplois. Pourquoi? Ça, c'était la question. Si on était vraiment une menace à la sécurité, si on avait fait des choses... Pourquoi on n'était pas accusé, arrêté? Non, on n'avait rien fait. Moi, j'avais aucun record criminel, les deux autres non plus. On n'avait même pas jamais été arrêté dans une manifestation ou quelque chose comme ça. Et dans toutes ces années, on était tous très actifs. Alors, c'était clair que c'était une façon d'essayer de viser les gens sur la base de leur point de vue politique et de les empêcher d'avoir le droit de travailler.
Et c'est vrai que, est-ce que vous pouvez... expliquer, parce que ça peut paraître loin pour beaucoup de gens, l'année 79, début des années 80. Est-ce que vous pouvez expliquer un peu le contexte politique ici au Québec qui poussait le gouvernement et les services de police à une répression des militants?
Moi, je dirais que juste plusieurs années avant, il y avait eu une lutte syndicale assez importante à Pratt & Whitney. Mais dans le temps, ça s'appelait United Aircraft. Puis ça avait été une lutte très dure. Il y avait été beaucoup de répression liée avec ça. Et je pense que Pratt & Whitney voulait à tout prix ne pas avoir ce qu'ils considéraient les troubles faits dans leur usine. Mais aussi, il y avait beaucoup de groupes de gauche dans cette époque au Québec, de toutes sortes. Et je pense que c'était pas qu'il y avait tellement d'affaires qui arrivaient comme telles, mais c'était le fait qu'il y avait toutes ces organisations qui commençaient à militer, s'exprimer, même si on n'était pas toujours d'accord entre nous. On était une force plus importante dans un sens que ce qu'on voit actuellement. Alors, je pense qu'ils ont décidé qu'ils voulaient essayer de tuer ça dans l'œuf. Et ça voulait dire nous faire peur, nous faire perdre nos emplois. Ça va nous faire peut-être questionner si on veut faire partie d'une organisation. Ça va faire questionner les gens autour de nous s'ils veulent faire partie des choses avec nous, parce que peut-être eux, ils vont avoir la même expérience. Alors, c'était une période où il y avait beaucoup de... Bon, si on regarde la situation du Québec, c'était la fin de la Révolution tranquille. Il y avait beaucoup de questionnements. Et je pense qu'ils voulaient vraiment... faire clair que nous, on n'avait pas de place dans la société.
Lors de votre témoignage devant l'Assemblée du Québec à l'époque, vous avez déclaré « De toute évidence, il semble que nos noms figurent sur la liste noire de plusieurs compagnies puisqu'on nous refuse systématiquement des emplois disponibles pour lesquels nous sommes qualifiés. » Ça paraît surréaliste. Comment vous pouvez expliquer... Est-ce que vous pouvez expliquer et décrire ces refus que vous avez subis? Parce que ça paraît surréaliste de tout à coup se retrouver sans la possibilité de trouver un emploi parce qu'on est sur une certaine liste noire d'un gouvernement.
Mais je dois peut-être expliquer un peu plus les procédures légales, parce que la Commission des droits de la personne a trouvé Pratt & Whitney coupable de discrimination. Le problème, c'est que Pratt & Whitney a des ressources incroyables comparées à nous. Alors, eux, ils ont pris une poursuite contre la Commission des droits de la personne et nous disant que la Commission a fait une enquête biaisée. Cette poursuite est allée jusqu'au Cour suprême. Ça prenait des années. Alors, pendant tout ce temps-là, notre cause était un peu publicisée, mais pas beaucoup. Mais ça veut dire que nous, on n'arrivait jamais à la question de qu'est-ce qui nous est arrivé. Alors, Entre-temps, on travaillait, il fallait gagner nos vies. On a deux expériences particulières. Une, c'était que Katie Leroux-Jettel avait été engagée dans un petit machine shop qui avait des conditions beaucoup moins bonnes que où on avait travaillé. Puis, à un moment donné, elle était congédiée. Et Suzanne Chabot avait trouvé un autre emploi un peu dans la même situation. Et quand elle s'est plainte qu'après quelques mois, ou je ne sais pas combien de temps qu'elle avait été là, elle s'est plainte parce qu'elle était engagée, mais un gars qui avait été engagé gagnait 2 $ de plus qu'elle. Le propriétaire a dit, mais Madame Chabot, je connais votre histoire et vous êtes chanceux d'avoir un emploi ici, alors ferme ta gueule. C'était connu parce qu'on a eu beaucoup d'articles dans les journaux, c'était publicisé, on avait un appui très, très large pour notre cause. Toutes sortes de syndicats, toutes sortes d'individus politiques qui étaient dans, même les députés, même l'ancien politicien fédéral Warren Almond, il y avait du monde qui nous appuyait et aidait à nous financer. C'était vraiment un appui très, très bien et on était très contents de l'avoir. Alors, c'est un choix pour nous, dans un sens. Est-ce qu'on ferme nos gueules? Est-ce qu'on trouve un autre emploi? On ouvre plus nos bouches? Ou est-ce qu'on se défend pour notre droit d'avoir des opinions politiques et un emploi? Alors, tout ça, avec la commission, quand j'ai fait la présentation, c'était surtout pour dire que c'est bien bon d'avoir les chartes qui disent quel droit qu'on a, mais à ce point-là, il n'y avait même pas une chose sur la discrimination politique dans la charte du Québec. Je ne sais même pas s'il y en a maintenant encore. Mais que s'ils ont des moyens légaux, s'ils ont des compagnies d'avocats, des firmes d'avocats, s'ils ont tout ça, et nous, nos ressources, c'était des petits jobs qu'on avait pour gagner nos vies, puis les contributions que les gens nous donnaient, on n'avait aucune façon de se défendre comme il faut. Mm. Et quand eux, ils allaient jusqu'au Cour suprême, ce que ça faisait, ça retardait notre cause au point qu'il y avait une question si on pouvait procéder parce que la Commission des droits de la personne avait 2 ans pour finir tout ça. Et si c'était pas fini, c'était à nous de poursuivre tout ça.
C'est vrai qu'on ressent après, au niveau de cet appareil juridique, qu'on a même du mal à comprendre la puissance d'une entreprise comme Pratt & Whitney. Mais aussi, ce qui est assez notable dans votre histoire, c'est la lâcheté et la cruauté de cette procédure qui se cache derrière un licenciement sous le motif d'un surplus de personnel pour cacher, en fait, directement un licenciement pour motif politique.
Mais le point, c'est qu'ils ne voulaient pas qu'on sache. Et c'était vraiment la très bonne chose que la commission a réussi de faire, c'était de trouver la visite de la GRC. Parce qu'autrement, comment est-ce qu'on aurait pu même se défendre si on n'avait pas ces preuves que c'était la GRC qui est allée? Et moi, j'ai rencontré des gens personnellement qui étaient dans d'autres formations politiques qui ont vécu la même chose que nous. Mais leur choix, c'était de fermer leur gueule, aller chercher un autre emploi, ne pas parler de ça. Alors, la leçon, c'était, si tu veux continuer de ne pas être sur une liste noire, et pas de garantie quand même qu'ils ne vont pas se mêler encore une fois, le GRC, mais au moins, ce que tu avais la possibilité plus d'avoir un emploi parce que ton nom n'était pas dans les journaux. Nous, on a choisi l'autre et ils nous ont punis pour ça.
Donc, j'en arrive à ma question majeure. Vous, avec toute votre histoire et tout votre recul, comment vous anticipez l'arrivée d'une loi comme C-51 au Canada? Est-ce que vous pensez que votre cas peut se généraliser avec un processus de loi comme C-51?
Mais c'est évidemment, moi je pense, pas seulement une possibilité, mais le but. Moi, je pense que le but, c'est encore de nous baïonner, de nous empêcher de s'organiser, de trouver les moyens de nous faire peur, de faire peur aux gens autour de nous. Alors, moi, je pense que, comme ma partenaire dans tout ça, Suzanne Chabot, a dit dans une opinion qui a été publiée dans la presse, elle a dit que c'est toute cette expérience, c'est pas quelque chose qui est une nouveauté. Mais ce qui est une nouveauté, c'est qu'ils veulent légaliser tout ça. En fait, dans le passé, les choses étaient faites. Je ne dis pas qu'ils n'étaient pas faits. Mais maintenant, ils vont avoir le complet droit de faire ce qu'ils ont fait à nous et probablement pire encore. Et on n'aurait même pas des moyens de se défendre contre ça, malgré la faiblesse de ces moyens de défense. On n'aurait pas les moyens de le faire et ça va être en secret et ça va jamais sortir pour que les gens savent. Les gens vont peut-être jamais savoir pourquoi ils ont été balancés d'un emploi. Des choses comme ça, et bien pire que ça, des arrestations, on sait les menaces qui existent pour... Si tu bloques un chemin de fer pour protester contre les pipelines, c'est des crimes avec un poids énorme, des temps en prison. Alors tout ça, moi je pense qu'il faut qu'on ait vraiment peur de cette loi et surtout comment ça va être appliqué par le gouvernement conservateur.
Surtout, il faut le préciser que vous étiez une femme de gauche, syndicaliste et aussi proche de mouvements trotskistes. Toutes des choses qui sont des sujets de discrimination, rien que le fait d'être une femme à l'époque, syndicaliste, des choses qui sont des sujets de discrimination de tous les jours. Quand on ajoute à ça de la discrimination politique et qu'on l'amène à un point de légalisation, comment pensez-vous que les mouvements aujourd'hui au Québec et même à travers le Canada peuvent continuer à agir malgré des lois comme C-51, malgré un gouvernement qui tente de les museler?
Mais une chose que je peux dire, j'ai maintenant 68 ans. Et ça, c'est arrivé en 79. Et ça, malgré tout ce que j'ai dit, et c'était une horreur ce qu'ils nous ont dit, ça ne m'a pas changé. Les choses que j'ai considérées injustes, je continue de considérer injustes. J'accompagnais les étudiants presque tous les soirs pendant la lutte étudiante. Je continue d'être là quand il y a des activités parce que même s'ils voulaient nous intimider, même s'ils voulaient nous faire peur, même s'ils voulaient qu'on ferme nos gueules puis qu'on se cache quelque part, ça n'a pas marché. On a gagné ça. Ils ont, pour les trois, même si on n'est pas dans la même organisation qu'on était, on est encore les trois militants d'une façon ou d'une autre. On croit encore dans les idées fondamentales. Et je pense que ça, c'est la meilleure façon de continuer pour tout le monde. Oui, ils vont essayer de faire tout ce qu'ils peuvent. Mais ce qui est important, c'est que nous, on ne lâche pas nos idées, qu'on ne lâche pas notre mobilisation et qu'on continue de faire ce qu'on pense est juste et droit. Et je pense qu'on va pouvoir gagner avec ça.